Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'interview de Samuel Sauvage, président de HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Alors depuis 2015, donc l'article L441-2 du Code de la consommation mentionne « est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ». Les sanctions encourues sont 300 000 euros d'amende, amende pouvant aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires moyen annuel pour les entreprises. Donc ça, c'est de cet article dont tu disais tout à l'heure qu'on était le seul pays au monde pour l'instant à avoir ça.
Oui, on est les seuls à avoir puni pénalement l'obsolescence programmée comme un délit. Il y a d'autres pays où ça peut être inclus dans des problèmes de droit de la consommation, donc plutôt civils, comme des pratiques commerciales trompeuses d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'on a une particularité, voilà, d'avoir ce délit. C'est sur cette base-là qu'on a porté plainte contre Epson tout d'abord et fabricants d'imprimantes pour des cas d'obsolescence programmée, puis contre Apple. Il faut savoir que c'est que dans le cas d'Apple, pour l'instant, qu'il y a eu une décision qui a conduit à sanctionner Apple à payer 25 millions d'euros d'amende suite à notre plainte. Donc, c'est une victoire qui montre quand même qu'on peut aboutir à quelque chose, même si 25 millions d'euros pour Apple, ça reste peu pour eux. Mais finalement, pour le fisc français, c'est quand même pas mal de récupérer tout ça. Et on attend toujours pour Epson. C'est assez lent quand même parce qu'on avait porté plainte en 2017, donc on n'a toujours pas la réponse. On pense qu'on a des chances de voir condamner cette pratique, mais voilà, ça n'a pas encore été le cas.
Et alors après, est-ce qu'il y a un phénomène de, est-ce qu'on peut appeler ça jurisprudence ? Est-ce que les jugements qui passent par exemple par rapport à Apple, est-ce que ça peut faire gagner du terrain à la cause par rapport à tous les autres producteurs de smartphones par exemple ou...
Ouais, ce qui est sûr, c'est que le bad buzz, comme on dit, c'est-à-dire cette mauvaise réputation qu'on est en train de créer quand on porte plainte contre un fabricant pour obsolescence programmée, vu que c'est quand même grave quand on parle d'obsolescence programmée dans l'esprit du consommateur, c'est vraiment une arnaque, quoi. Donc nous, quand on a porté plainte, on a été sur toutes les chaînes de télé, etc. Les gens ont été au courant, globalement. Donc ça fait assez mal à ces entreprises. Et donc, c'est peut-être ça l'impact principal, finalement. Plutôt que les millions d'euros d'amende, l'impact de réputation, il est quand même très important. Et tout le monde se tient à carreau, du coup. Je pense qu'ils savent que...
Voilà, c'est incitatif,
c'est
en fait.
Ça, les autres se disent, bon, on ne s'est pas tombé sur nous cette fois-ci, mais ça pourrait être le cas demain. Donc, on va faire attention, alors soit en le cachant mieux, soit en changeant nos modes de production, ce que j'espère. Donc, ça, c'est quand même un premier élément, quoi. C'est cet enjeu de réputation. Après, il y a une jurisprudence malgré tout, c'est-à-dire une fois que ça aura été condamné une fois, eh bien, les juges ont tendance à suivre la première décision si on a des faits qui sont caractérisés de la même manière. Nous, dans le cas d'Apple, ce qui a aidé d'ailleurs, c'est que Apple a été condamné en Italie pour les mêmes faits, parce que bon, c'était mondial hein, ce qu'ils ont fait au niveau d'obsolescence logicielle, donc c'était pas particulier à la France. Le juge italien, qui était un juge plutôt commercial, on va dire, c'était pas le même, mais globalement, il a condamné Apple pour ces faits-là. Donc, le juge français, il pouvait pas dire Apple n'est pas coupable. Et finalement, ce qu'ils ont fait sur ce cas-là, c'est un peu contestable, mais ils ont fait une transaction, c'est-à-dire qu'Apple a préféré éviter le procès, parce que dans le procès, il aurait eu une médiatisation sans doute qui lui aurait fait du mal, et il a fait une transaction, il a dit « Ok, je paye l'amende, dites-moi combien, je sors le chèque, et bam ». Donc, pour la justice française, c'est bien, parce qu'ils sont allés plus vite, ils ont réussi à se dépatouiller de ce problème juridique important avec tous les avocats qui sinon auraient posé plein de soucis. Pour nous, on est un peu entre les deux, parce que d'un côté, ok, notre plainte, elle a été reconnue. De l'autre, on aurait mérité un procès un peu plus grand pour montrer aux consommateurs que, voilà, c'est pas qu'une question d'argent comme ça, c'est une question de société, ça vaut le coup d'en parler dans un procès. Mais bon, on n'avait pas la main là-dessus. Voilà, c'est la justice après française qui a procédé de cette manière. Voilà pour ce petit état des lieux, on va dire, juridique. Après, peut-être préciser quand même qu'on aimerait bien faire évoluer la loi. C'est-à-dire que le fait qu'elles disent vraiment délibérément, raccourcir délibérément la durée de vie des produits, pour nous, c'est un peu limitatif. C'est très dur de prouver cette intention. On n'est pas dans la tête
On se demande comment.
C'est possible. Voilà, et donc c'est là où juridiquement il y a des débats. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit qu'il n'y a aucune autre raison d'avoir conçu cet appareil de cette manière. Donc la raison, elle est que ça va casser. Et c'est ça la raison. Mais voilà, on ne peut pas prouver en soi l'intention première de la personne qui a été responsable de la décision. Donc c'est. Cette délibération, on aimerait bien soit qu'on renverse la charge de la preuve, c'est-à-dire soit l'entreprise de devoir prouver qu'elle n'a pas fait ça pour de l'obsolescence, donc on propose ça, ou alors il faudrait élargir un petit peu, par exemple, tout ce qui est irréparabilité intentionnelle. Par exemple, on a fait un rapport récemment sur les lave-linges, on se rendait compte qu'il y avait différents problèmes, où les composants, ils étaient vraiment inaccessibles, du coup ça prenait 3 heures au réparateur de changer la cuve, etc. Bon, ça, il n'y avait aucune raison de le faire comme ça. Est-ce que ce n'est pas de l'irréparabilité intentionnelle? Parce que derrière, on sait que ça va coûter trop cher d'être réparé et les gens ne vont pas le réparer. Et donc ça, si on arrivait à l'interdire clairement dans la loi, ce serait une avancée. Là, pour l'instant, c'est tangent aussi. On ne sait pas si ça rentre dans le cadre du délit et ce serait mieux que ce soit précisé, quoi.
Oui, on se rend bien compte hein, actuellement avec les différentes ONG sur différents domaines qui se battent sur en fait des choses que vous avez en commun dans le fond, hein, c'est-à-dire plus de respect de l'environnement, des pratiques commerciales, de l'humain. Et on se rend compte que tous ces combats sont vraiment des combats de longue haleine, que c'est important de, si on se sent concerné par une de ces causes, bah, de soutenir, de vous soutenir. Ça peut être financièrement si on en a les moyens et si on se sent vraiment concerné, ça peut être aussi certaines ONG, c'est des groupes locaux de bénévoles et c'est aussi partager les informations sur les réseaux sociaux des ONG qui font un travail sérieux, qui est établi sur des bases très professionnelles, pas juste du blabla pour faire monter le buzz, mais c'est justement il y a tout un travail derrière d'études, d'analyses, de rapports. D'ailleurs, je précise que la plupart des rapports dont on a déjà parlé, sur lesquels tu as travaillé, vous avez travaillé chez Hop, sont accessibles cibles sur votre site internet.
Si je peux me permettre, sur les manières, oui. C'est vrai que ce qui est important pour soutenir des assos comme nous, c'est de montrer qu'on est nombreux. Alors moi, je m'en fiche si on... Enfin, chacun fait un don s'il veut, s'il peut, mais plus important pour moi, c'est qu'il y ait des personnes qui viennent signer notre charte et qui viennent... Là, on fait une adhésion à 5 euros, donc c'est pas une question d'argent, mais c'est une question de montrer qu'on est des milliers. Parce que le fait de montrer qu'on est des milliers, ça va jouer sur le fait qu'on est pris au sérieux au niveau politique, des entreprises, etc. Qu'on n'est pas juste une petite asso comme ça, militante. Donc voilà, c'est plus ça. Et puis, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans une entreprise où il y a des cas d'obsolescence programmée et qui veulent jouer un rôle de lanceur d'alerte, bien sûr, ce serait une grande aide dans certains cas. Mais voilà, toute information, elle est la bienvenue. Et puis, voilà, il y a plein de bénévoles au sein de Hop qui apportent leurs compétences. Voilà, bah, chacun à sa mesure, quoi. Et c'est important parce que si on veut pas... Il y a une question d'être... Parfois, on est pro, mais en même temps, il faut être aux prises avec ce que vivent les citoyens, quoi. Donc, il faut qu'il y ait toujours des bénévoles qui fassent un travail de terrain et participent aux réflexions. Voilà, c'était la petite incise.
Alors, mettre fin à l'obsolescence programmée pourrait menacer la prospérité et les emplois. C'est souvent ainsi que se justifient les industriels. On en a parlé tout à l'heure. Vous écrivez dans l'un des rapports, je crois, que j'ai lu sur votre site, « Lutter contre l'obsolescence programmée implique un changement de modèle économique. Il s'agit de consommer et produire moins, mieux, plus local et écologique. Si la fin de l'obsolescence programmée entraînerait des mutations en termes d'emploi, elle créerait de nouvelles opportunités dans d'autres secteurs. La Commission européenne estime que le développement de l'économie circulaire pourrait générer 170 000 emplois supplémentaires d'ici 2030. Grâce à l'économie circulaire collaborative, sociale et solidaire, il est possible d'envisager de nouveaux types d'emplois dans la réparation, les services, tu en as parlé, le développement durable, l'agriculture de proximité et de nombreux autres secteurs. Il s'agit parallèlement d'engager une réflexion globale sur les modes de vie, l'échange de biens et services, le design, le travail et la simplicité volontaire. Aujourd'hui, donc, nous sommes de plus en plus nombreux, on le voit, à avoir envie de voir rapidement notre économie se transformer et de consommer et produire moins, mieux, plus local et écologique, comme vous dites. On sait qu'il y a urgence, là ça s'accélère en plus, hein. On voit tous les rapports du GIEC qui tombent, on voit les problèmes de pandémie, on voit aussi, on prend conscience enfin que tout est lié. Donc on sait qu'il y a urgence, mais on sait aussi que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de résistance pour freiner, voire empêcher l'émergence de nouveaux systèmes économiques plus vertueux et de nouvelles règles pour gérer tout ça. Vous parlez de faire émerger un modèle économique alternatif, écologique et sociale. Alors, quels sont vos moyens pour aider concrètement cette transition ?
Voilà, une grande question. Le nouveau modèle de société, je pense qu'on n'est pas du tout les seuls à le décrire, à aspirer à effectivement oui, un monde où on consomme moins, plus local, etc. Nous, on a pris par le prisme de la durée de vie des produits. Et donc, on agit de plusieurs manières. On pense d'une part qu'on peut agir auprès des consommateurs, qui nous écoutent aussi, se dire qu'il a sa part de responsabilité, même si elle n'est pas forcément à mettre en premier, mais il a sa part de responsabilité pour choisir des produits qui vont être plus robustes, pour choisir de faire réparer son produit au lieu de le remplacer, pour essayer d'acheter d'occasion, pour parfois se poser la question, est-ce qu'il a besoin de ce produit ? Est-ce qu'il ne peut pas l'emprunter à un voisin ou le louer, etc. Donc, tous ces modes de consommation, de les faire connaître. Donc, sur cet aspect-là, on fait des conférences, on a écrit un livre aussi qui s'appelle « Du jetable au durable » où on a certains conseils en la matière. On a un site qui s'appelle produitsdurables.fr où il y a des conseils un peu produit par produit et puis des notes, c'est-à-dire si vous voulez acheter un lave-linge, est-ce qu'il y a telle marque qui est censée être plus robuste qu'une autre, selon les avis des consommateurs et puis des réparateurs aussi. Donc, on essaye de jouer sur cette sensibilisation du consommateur. Même par exemple, récemment, on a développé une exposition qui s'appelle Inusable et qui montre tous les affiches publicitaires qu'il y avait il y a des dizaines d'années, qui vantaient la solidité des produits. Et voilà comment est-ce qu'on est passé de cette époque-là où la solidité est au cœur des choix à maintenant une époque où tout va vite et où l'ensemble des incitations elle est à renouveler au plus vite ses achats. Donc on a développé pas mal de choses pour le côté consommateur. Après, on pense que l'État et l'Europe et les collectivités territoriales, ils ont un rôle important pour orienter les choix de consommation et puis les fabricants, pour contraindre les fabricants. Donc, c'est clair, c'est qu'il faut, ce que je mentionnais, l'indice, mieux informer le consommateur. On peut aussi proposer des garanties plus longues pour les produits. Actuellement, au Sénat, il y a une proposition de loi où on propose de passer à 5 ans de garantie pour les équipements numériques au lieu de 2 ans. Eh bien ça, évidemment, ça serait très fort en termes d'impact, puisque derrière, le fabricant, il serait obligé quand même de garantir le produit pendant 5 ans. Et donc, il faut qu'il le conçoive d'une manière plus environnementalement consciente de l'impact de la durée de vie.
Est-ce qu'il y a des pays d'ailleurs où, c'est, où cette, ces années de garantie sont plus élevées que celles que l'on a en France ?
Oui, il y a des pays où, c'est plus, où ça fonctionne différemment. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a plusieurs pays européens où c'est en fonction du prix, par exemple, du produit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le produit vaut plus de 500 euros, enfin, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, eh bien, ça va être 3 ans de garantie ou ça va être 4 ans. Et donc, ce type de mécanisme, il est vraiment intéressant. Et ça, ça doit passer par un moment par la loi. Donc, on en appelle à l'État, on fait du plaidoyer ou du lobbying, si vous voulez, pour pousser les députés, les ministres sur ces différents champs. Et on a obtenu récemment, par exemple, dans la loi économie circulaire, qu'il y ait un fonds pour la réparation. Alors, on n'a pas obtenu la TVA réduite, mais on a obtenu quand même un fonds qui fait que, normalement, dès l'an prochain, parce que c'est en train d'être mis en place maintenant, dès 2022, il devrait y avoir une aide financière pour faire réparer les produits électriques, électroménagers, qui pourraient être autour de 20% du prix de la réparation. Donc, ça, c'est quand même des avancées qui pouvaient être permises qu'au niveau de l'État, voilà. Après, les pouvoirs locaux aussi, ils ont leur rôle. C'est aussi mon métier d'accompagner les pouvoirs publics. Donc, je travaille sur ces sujets en développant des ressourceries, des hypercafés et plein de choses dans le genre. Donc, ça, c'est le côté public. Et puis après, il y a les entreprises. Et là, les entreprises, on est sur un, on va dire, la carotte et le bâton. On a déjà parlé de la carotte avec nos procès contre des marques qui vont faire de l'obsolescence programmée ou alors des rapports qui vont quand même mettre le doigt là où ils n'ont pas envie qu'on le mette. Mais on a aussi un côté carotte, entre guillemets, où il faut promouvoir toutes celles qui s'engagent, quoi, toutes celles qui font des pas en avant. Et pour ça, on a développé un club de la durabilité, ça s'appelle. Et donc là, ça répond à la question de tout à l'heure aussi. Il y a une vingtaine d'entreprises qui nous ont rejoints, des petites et des grandes, et qui font confiance à notre association parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de s'améliorer en la matière. Donc, et là, l'idée, c'est que voilà, ils aient accès à des experts et qu'ils collaborent entre eux pour que cet écosystème de la durabilité, de la réparation, il se développe. Donc ça, c'est au niveau des entreprises, un de nos moyens d'action. Bah, j'en oublie peut-être des moyens d'action, mais en gros, on essaie vraiment de viser à la fois les consommateurs et les entreprises et l'État.
Par rapport à ce que tu viens de décrire, par exemple, un club avec des entreprises qui rejoignent, et comment vous gérez le fait que, parce qu'on a vu tous les problèmes avec le greenwashing et les entreprises qui essaient d'adhérer ou de prendre des mesurettes et puis ensuite qui mettent en avant, en amplifiant l'image verte de préoccupation environnementale qui, quelquefois, n'est pas du tout aussi importante que ce qu'ils nous vendent, que l'image qu'ils nous vendent. Donc, j'imagine que c'est aussi difficile à établir et à dire à une entreprise, bah, écoutez, non, là, vous n'avez pas fait assez pour entrer dans le club, il faudra peut-être un peu en faire un peu plus. Et puis, d'un autre côté, je trouve que c'est aussi difficile actuellement avec des entreprises qui prennent des mesures qui sont un peu entre les deux parce que quelquefois, ils n'ont pas les moyens, les grosses multinationales, de tout changer du jour au lendemain. On peut aussi le comprendre. Et parce qu'évidemment, c'est important quand on est dans une ONG, qu'on est activiste, de toujours mettre le doigt là où ça fait mal pour inciter toujours à tendre vers quelque chose de mieux, à ce que les modèles de ces entreprises aillent toujours vers le mieux. Et quelquefois, le côté pervers, ça peut être que de ne voir toujours que la bouteille à moitié vide, de toujours mettre le doigt sur ce qui ne va pas sans reconnaître les efforts qui quelquefois peuvent être vraiment sincères. Et quelquefois, ça demande aussi des gros investissements sur des moyennes entreprises, notamment, qui essaient vraiment de faire des efforts et sur lesquels on va pointer toujours ce qui manque encore, ce qui ne va pas. Donc, il y a un juste milieu à trouver qui est sensible.
Qui est sensible, hein, qui n'est pas facile à trouver. Nous, à Hop, j'ai l'impression qu'on essaye et on y arrive, la plupart du temps en tout cas, à être à la fois radicaux et puis pragmatiques. Je pense qu'il faut être radicaux parce que l'urgence, elle est là. Et voilà, ce non-sens de l'obsolescence programmée n'invite pas à des demi-mesures. Donc, pas hésiter à porter plainte, à mettre au banc certaines pratiques. Et en même temps, être pragmatique, c'est ce qu'on fait aussi quand on fait du plaidoyer auprès du gouvernement. C'est-à-dire, on ne va pas juste taper en disant « c'est nul ce que vous faites », mais on va dire « ok, je vous propose un amendement à l'alinéa 2, à l'alinéa 3, à l'alinéa 4 ». Et puis effectivement, bah, après, ils ne passent pas tous, mais il y en a un ou deux qui passent. Et bon, bah, c'est des petites avancées quand même. C'est ce qu'on essaie de faire après avec les entreprises. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais effectivement, il y en a qu'on a refusé. Il y en a pas mal qu'on a refusé dans le club parce qu'on attend d'eux qu'ils aient déjà un certain niveau d'engagement. Et puis après, on attend d'eux qui s'engagent encore plus au fur et à mesure. Donc, c'est des débats aussi au sein du conseil d'administration parce que on n'est pas toujours tous d'accord, mais c'est le jeu. Et donc, les entreprises le savent et elles sont aussi attachées au fait que n'importe qui peut pas rentrer parce que voilà, faut quand même faire partie du club, faut un petit peu le mériter. Donc, on essaye de jouer là-dessus et après, on ne fait pas la pub des entreprises qui sont dans le club parce qu'on ne s'interdit pas d'ailleurs de les attaquer si par ailleurs, ils font un autre truc. Donc, on pense qu'ils sont plutôt une partie de la solution. Donc, on veut les aider et en même temps, on n'est pas leur promoteur. Donc, on essaye de garder cet équilibre qui, certes, n'est pas facile. Oui. Parfois, enfin, régulièrement, on a des sollicitations un peu borderline où on voit certains groupes qui veulent qu'on les aide dans leur communication. Et nous, il ne faut pas du tout qu'on rentre là-dedans parce que nous, on est reconnus parce qu'on est indépendants. Si à un moment, on se met à défendre un groupe ou un autre, je pense qu'on y perdrait notre crédibilité. Et on a beaucoup plus à perdre d'ailleurs parce que voilà, les citoyens nous aiment bien quand ils nous connaissent parce qu'on a cette liberté-là. Mais en même temps, c'est bien aussi d'être pragmatique, de collaborer avec les entreprises. C'est quand même elles qui fabriquent, c'est quand même elles qui distribuent. Si on peut les convaincre sur quelques éléments, bah, faut quand même le faire. Voilà, c'est une manière pragmatique de voir les choses et on n'a pas complètement la réponse. Mais n'hésitez pas s'il y a des suggestions pour faire encore mieux. Mais en tout cas, ouais, on essaye de garder cet équilibre.
Alors, dans votre rapport d'activité de 2019, vous écrivez « Les résultats dans les modes de production et de vente commencent à se faire sentir ». Donc, évidemment, pour montrer un petit peu l'ampleur de votre travail et les résultats, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de tout ce que vous avez déjà réalisé depuis 2015. Mais je me suis aperçue en regardant votre site qu'en fait, c'est assez énorme. Hein. Est-ce que tu peux quand même nous expliquer un petit peu les choses qui font que vous êtes quand même content du chemin parcouru depuis 2015, c'est relativement court en plus, hein, 5 ans.
Oui, on est content du chemin parcouru et toujours insatisfait quand même que ça aille pas assez vite. Et bon, heureusement, je pense. Donc bon, tout dépend comment on se réveille le matin avec le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y a eu beaucoup de chemin de parcouru au tout départ. On parlait d'obsolescence programmée dans la rue et les gens, bon, savaient pas trop ce que c'était. Maintenant, la prise de conscience, elle est assez large. L'avantage de ce sujet, c'est qu'on peut en parler à la fois au bar du coin et puis dans un congrès du CNRS pour caricaturer. Et donc, c'est à la fois présent dans, voilà, dans la recherche sociologique, économique, etc. Et puis en même temps, dans toutes les conversations du quotidien, quoi. Donc ça, c'est quand même une victoire à laquelle on a contribué, mais c'est pas du tout que nous, mais le fait que ce sujet, ils deviennent un vrai sujet de société assez reconnu. Et on l'a vu dans nos événements, on a des événements réguliers, on fait en gros un ou deux grands événements par an, et il y a de plus en plus de monde. Et là, cette année, on l'a fait en webinaire, on a dû faire face à un afflux, c'était en milliers plutôt, de participants, je crois 2000. Donc, on a eu du mal à organiser tout ça, parce qu'on avait des ateliers, des groupes, on voulait faire réfléchir les gens ensemble. Et donc, quand on est par des groupes de 100 personnes, ça commence à être plus dur que prévu. Et ça montre que quand même, ce sujet-là, il est vraiment rentré dans les consciences. On voit que les entreprises, elles viennent de plus en plus vers nous, sans que nous, on aille vers elles. Donc, voilà, il y a même des grands ou des petits qui disent, voilà, je voudrais me rapprocher de vous, je voulais faire partie du club, etc. Et on se dit, bah ouais, on a réussi quand même à être connu et à montrer qu'on pouvait être utile. Donc, voilà, ça fait partie des avancées. On a eu des avancées fortes aussi au niveau législatif parce qu'il y a eu la loi. Donc, au moment où on s'est créé sur le délit d'obsolescence programmée, mais depuis, il y a eu des avancées comme celles que j'ai mentionnées sur voilà, l'indice de réparabilité, le fonds pour la réparation. On est en train de pousser pas mal de sujets et de réussir quand même pas mal de choses au niveau législatif. Et ça, c'est une de nos forces par rapport à d'autres assos. Il y a des choses qu'on fait moins bien que d'autres, notamment l'événementiel. Bon, on n'a pas réussi à démultiplier partout en France des petits groupes locaux qui font plein d'événements. Ça, on n'a pas réussi encore. Par contre, c'est vrai que quand on veut pousser une proposition législative, en fait, on le fait assez bien. Donc là, il y a eu pas mal d'avancées. Après, est-ce que vraiment on a réussi à changer les modes de production de consommation? La réponse est non, et en tout cas pas suffisamment. Je pense pas que nos appareils durent plus longtemps maintenant qu'il y a 5 ans. On manque de données, hein, mais ça dépend des produits, oui. Mais on peut penser que c'est plutôt quand même l'inverse. On peut penser que les modes de consommation, oui, ils évoluent pour une partie des gens, mais la majorité quand même, notamment quand on regarde les comportements en termes de vêtements, ça reste très, 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 très consommation de masse et d'accélération de la consommation. Donc, faut quand même être très, très modeste et se dire qu'il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux parce que les petites victoires qu'on voit par-ci, par-là, en fait, faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, un rouleau compresseur économique qui continue quand même de dévaster notre environnement. On arrive à l'atténuer peut-être, mais les grandes tendances, elles restent quand même assez négatives et on a de quoi être pessimiste pour l'environnement en général.
Alors hier, 14 janvier 2020, vous avez tweeté sur le compte de Hop, mardi, la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental du numérique en France a été adoptée au Sénat. Obsolescence logicielle et culturelle, reconditionnement, streaming, mise à jour, de nombreux thèmes sont traités. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et est-ce que vous êtes lié à cette avancée ?
Oui, on a été auditionné au Sénat pour cette proposition de loi qui est transpartisane d'ailleurs. Hein. Il y a des sénateurs de droite, de gauche qui sont signataires, finalement tout sauf La République En Marche, hein, qui sont liés au gouvernement et qui ne veulent pas trop s'engager. Donc, sur cette proposition de loi, elle est quand même très, très positive parce qu'on traite du logiciel. Par exemple, une des propositions qui est très forte, c'est de dire, et c'est une proposition qu'on a depuis longtemps, c'est de dire qu'il faut dissocier les mises à jour de sécurité avec les mises à jour de confort, entre guillemets. Pour mieux expliquer, souvent, on vous dit vous êtes obligé de mettre à jour, mais parce que sinon, vous allez avoir des problèmes, vous allez vous faire pirater, etc. Et en réalité, il y a une partie de la mise à jour qui peut être de sécurité et qui est nécessaire, et l'autre partie de la mise à jour qui va être plutôt évolutive, de confort, pour augmenter des performances, et qui, celle-là, peut être très gourmande en énergie et peut vous faire dysfonctionner l'appareil. Donc une fois qu'on arrive à les dissocier et à rendre obligatoires que celles qui sont de sécurité, eh ben, on peut jouer vraiment un rôle important pour dire maintenant choisissez et ne faites que les mises à jour strictement nécessaires. Et donc derrière, toute l'obsolescence logicielle en prend un coup avec cette proposition. Il y a plein de choses hyper intéressantes dans la loi. Le fait par exemple, bon après c'est pas que dans le champ de l'obsolescence programmée, mais sur l'éco-conception des sites, entre un site A et un site B, vous pouvez avoir une consommation qui va de 1 à 700. C'est vraiment de grandes différences de consommation des sites internet. Et donc, le fait qu'ils soient conçus d'une certaine manière peut être vraiment vertueux pour l'environnement. Et le fait qu'on ne soit pas, par exemple, le scrolling infini sur les pages, ça fait partie de la proposition de loi que ce soit interdit, que la vidéo se lance et puis qu'automatiquement, il y a une autre vidéo qui se lance, etc. Toutes ces choses qui captent notre attention aussi, qui nous obligent à rester en permanence connectés, eh bien, ça peut être interdit aussi. Et puis après, ce que j'ai bien aimé dans cette proposition de loi, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, le fait de proposer de passer de 2 à 5 ans la garantie sur les équipements numériques, bah, ce serait vraiment chouette. Après, bon, c'est le Sénat, donc...
Donc, qu'est-ce qui reste après les étapes pour que ça devienne effectif et que ça se concrétise dans notre vie quotidienne et que ça existe, toutes ces
propositions ? Non, on n'en est pas encore arrivé au fait que ce soit concret, malheureusement, parce que le problème, c'est que le Sénat, là, il n'a pas le dernier mot, donc c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. L'Assemblée nationale a une majorité absolue, La République En Marche, que La République En Marche, pour l'instant, n'a pas soutenu...
N'a pas voté au Sénat.
On n'a pas soutenu ce texte, donc c'est loin d'être gagné, que ça puisse être approuvé à l'Assemblée nationale. Après, quand même, quand je parlais de la garantie à 5 ans, il ne faut pas oublier que c'est une proposition aussi des citoyens dans la Convention citoyenne pour le climat, et que malgré tout, Emmanuel Macron, il a dit qu'il allait reprendre sans filtre les propositions. Donc après, ça fait pas mal de choses qui, quand même, voilà,
poussent
à prendre au sérieux ces propositions. Et puis une dernière chose quand même, parce que je me rends compte, j'en ai pas encore parlé, et c'est pas normal, c'est que dans cette loi, on parle aussi de la 5G. La 5G, c'est une aberration écologique et ça fait partie des injonctions contradictoires auxquelles on fait face. C'est-à-dire, on nous dit oui, il faut recycler, il faut faire attention, et en même temps, on développe une nouvelle architecture, infrastructure qui va rendre obsolète en fait la plupart de nos appareils et va consommer donc beaucoup de matières premières. Ce déploiement de la 5G n'est pas indispensable et la loi dit qu'il faudrait l'étudier à nouveau. Enfin, je ne sais plus quelle est vraiment la formulation, mais globalement, qui remet en cause aussi ce déploiement de la 5G et qui fait partie voilà, de l'empreinte du numérique aujourd'hui en France. De plus en plus, l'obsolescence elle va être de type numérique. Et de plus en plus, il faut que l'État et les pouvoirs publics s'intéressent à toutes les pollutions liées au numérique, parce que sinon, voilà, ils ne sont pas dans le bon siècle pour combattre les pollutions de ce siècle, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est quand même une proposition de loi très intéressante qu'on soutient et on espère que ça va pouvoir avancer, même si, voilà, souvent c'est long et ça n'arrive pas toujours à être concret. C'est pour ça qu'on veut aussi que les citoyens n'attendent pas les lois pour agir. On veut aussi que les collectivités, les mairies, les régions, etc., n'attendent pas l'État et fassent aussi leur propre programme, et que les entreprises n'attendent pas qu'elles mettent en place dès demain des initiatives volontaires, parce qu'elles peuvent le faire. Et finalement, quand on fait la conjonction de tout ça, ça fait un vent porteur qui peut faire assez de pression pour contrecarrer les mécanismes de l'obsolescence. Enfin, en tout cas, c'est là-dessus qu'on mise.
Très bien. Samuel, merci beaucoup pour toutes ces explications qui, je l'espère, auront permis à nos auditrices et auditeurs, autant qu'à moi en préparant cette interview, d'aller beaucoup plus loin, de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, pourquoi c'est important et surtout tout l'impact, tout ce qui est concerné par cette notion d'obsolescence programmée qui peut paraître un peu abstraite et qui en fait se traduit par de vraies conséquences pour notre planète, notre environnement, pour notre survie donc de l'humanité, on peut le dire par extension, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui tout ça est lié. Donc je vais vous souhaiter une bonne continuation.
En tout cas, c'est passé assez vite. Moi, j'étais ravi d'y participer. Je n'avais jamais parlé aussi longtemps de ce sujet dans ce type de format le permet. J'espère que ce n'était pas trop ennuyeux pour ceux qui nous ont écoutés. Je pense qu'on a bien traité de l'ensemble des sujets. Évidemment, il y en a toujours des sujets qu'on peut encore creuser, mais après, ceux qui voudront creuser, eh bien, pourront creuser. Ça, c'est super. Et puis, il faut pas non plus, on peut pas parler de tout dans le détail. Donc, j'espère que ça a été assez clair aussi, parce que c'est parfois des sujets, où tout est entremêlé. Donc, ça peut apparaître complexe, même si, en fait, c'est la vie quotidienne qui est souvent questionnée, finalement, à travers l'obsolescence programmée.
Oui. Merci beaucoup de nous avoir permis d'y voir un peu plus clair sur tout ça.
Merci pour l'invitation.
Très bonne continuation.
C'était un plaisir.
Merci. Est-ce que tu peux nous rappeler les URL des deux sites internet pour HOP et puis pour Produits Durables ?
Oui, alors c'est haltobsolescence.org pour le site de HOP. Vous pouvez adhérer notamment. Mm-hmm. Et c'est produitsdurables.fr. Produits durables au pluriel, pour signaler des produits qui durent ou qui ne durent pas. Voilà. Et on a publié un livre qui s'appelle « Du jetable au durable », parce que je pense que se plonger dans un bouquin, c'est encore mieux que de rester rivé sur les réseaux sociaux. Donc, il date de 2017, voilà. Donc ce n'est pas la dernière actu, mais quand même, c'est une réflexion qui pose les bases sur ce sujet et qui reste quand même d'actualité.
Samuel Sauvage, donc président de HOP, merci beaucoup.
Avec plaisir, merci encore.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Hi, Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.